Bonjour frères et sœurs, c'est toujours avec joie que nous venons en ce lieu. C'est comme une sorte de retour aux sources, je dis souvent ça, parce que comme vous savez peut-être, l'église de la rue du Moniteur est notre première église, en tant que mari en tout cas, je suis venu avec mon épouse Virginie, et notre deuxième, Tania d'ailleurs, a été présentée ici avec une belle cape de Yolande. Donc c'est vraiment, tu vois, un plaisir, et justement nous avons été touchés de savoir vraiment tout ce qui se passe, et en particulier donc le décès du papa de Claudine. Et bien sûr nous portons l'église également à cœur, et Eric et Claudine bien sûr particulièrement. Il y a un petit PowerPoint qui va circuler, si ça fonctionne en tout cas, j'espère. Mais, frères et sœurs, justement, ces circonstances vont permettre peut-être de dire la chose suivante. Mais en tout cas, je ne sais pas si à Bruxelles, c'est comme en Wallonie. Mais en tout cas, autour de nous, en Wallonie, on voit que les gens sont fatigués. Et il y a peut-être une image là, je ne sais pas si c'est celle qui... Il y a une image qui reflète un petit peu cela. Les gens sont fatigués autour de nous. Et on le voit au moins dans trois domaines. Dans les milieux chrétiens, au niveau des camps, il y a peu de directeurs de camps, peu de moniteurs. Dans notre association, en fait, si Timothée Wickens ne s'était pas levé pour assurer le camp qui s'est terminé le 6 août, et aussi donner un coup de main à l'autre camp qui se termine aujourd'hui, il n'y aurait pas eu du tout de camp en été. C'était à Limoges. Dans les hôpitaux aussi, en fait, mon épouse Virginie, qui est infirmière, m'en fait souvent part, elle est infirmière joliment, mais elle, assez souvent on l'appelle pour remplacer tel ou tel. Et la chef également a difficile de faire des horaires. Pourquoi ? Parce que les infirmières sont en burn-out, en arrêt maladie. Elles n'en peuvent plus. Il y a un peu plus d'un mois, j'amenais ma voiture en fait à l'entretien à Midas de la Louvière, et le responsable avec qui je discute souvent me faisait état de la même situation. Les gens sont fatigués. Autour de nous, les gens sont fatigués, voire épuisés. Peut-être est-ce ton cas ce matin. Peut-être que tu te sens dépassé par les circonstances. Que faire ? Que faire ? Comment réagir face à cette fatigue, cet épuisement ambiant ? J'aimerais que nous regardions ensemble quelques versets en fait que l'on lit assez rapidement souvent dans Matthieu 11, et puis on relira dans le psaume 32 un peu plus tard. Mais pour l'instant, lisons dans Matthieu 11 juste ces trois versets que Jésus prononce. Il est en plein ministère, et à un moment donné, en fait, il lève les yeux au ciel, c'est le verset 25 qui nous dit ça, et il loue le Père. Et au verset 28, voici ce qu'il dit. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Prions. Tendre Père, merci vraiment pour ta parole. Merci parce qu'elle elle nous accompagne jour après jour. Merci pour tout ce qu'elle contient et dont nous avons besoin pour vivre. Aide-nous à y tirer des ressources pour ce matin, afin de vivre une vie à la gloire de Jésus, notre Seigneur. Amen. Vous allez le voir, le message ce matin sera un message plutôt simple. On ne sera pas de haut vol théologique. Si vous êtes intéressé par la chose, inscrivez-vous à l'IBB. On a de temps en temps de bons moments, vraiment. Mais ce matin, en tout cas, j'aimerais simplement qu'on puisse revenir sur une réalité que je viens d'évoquer. Comment faire face à la fatigue ambiante? Comment faire face à l'épuisement ambiant? La réponse que je vous propose, et qui tient en une phrase, et qui tient lieu de titre à ce message, est ceci: venir à Jésus pour être restauré. Venir à Jésus pour être restauré. Et je vous propose qu'on s'arrête sur les trois éléments importants de ce titre: venir, Jésus et restaurer. Et tout d'abord, parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Parce que la première chose que l'on voit tout de suite dans ce passage, en fait, c'est que, comme autour de nous, il y a une sorte de fatigue. Et ce que j'aimerais souligner, en fait, c'est que la fatigue dont il est ici question n'est pas une fatigue physique. Lorsqu'on a passé la journée à bêcher au jardin ou à maçonner, c'est normal, en fait, que le soir, qu'on rentre épuisé. Mais en fait, avec une bonne nuit, voire deux bonnes nuits, on se remet, on est retapé. Mais ici, en tout cas, il ne s'agit pas de fatigue physique, mais plutôt d'une fatigue psychologique. Comment est-ce qu'on le voit? On le voit au verset 29, à la solution dont Jésus parle. Il dit en fait: « Venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes ». Littéralement, en fait, vous trouverez du repos pour votre psyché. Ce mot grec, en fait, psyché, qui a donné, notamment en français, psychologique ou psychique, que l'on utilise assez facilement donc en français. Donc la réponse vraiment ici est psychologique. Si la réponse que Jésus donne est psychologique, il y a lieu de penser en tout cas que le problème est également psychologique. Et il faut dire en fait qu'autour de nous, les hommes ont parfois tendance à faire cette erreur. Vous voyez, ils se gavent de matériel face à un problème psychologique ou spirituel. Ça, en fait, il faut dire que ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. À celui qui a un problème psychique ou spirituel, si vous donnez une réponse physique, par exemple un bon plat de pâte bolo, ça peut-être aider, mais ça ne peut pas foncièrement résoudre le problème. Le ventre sera peut-être plein, mais le problème restera irrésolu. À problème psychologique, il faut une réponse psychologique, et c'est ce que Jésus fait ici. Quelle est sa réponse? Venez à moi, venez à moi. Tu te sens fatigué, tu te sens là, que faire? Venez, dit Jésus dans ce passage. Et il vaut la peine de se demander, mais qui est ce moi qui dit venez? Quelle est cette personne qui ose dire venez à moi? Ça vaut la peine de s'arrêter une minute sur lui, sur Jésus. Et tout de suite, bien sûr, en fait, il ne faut pas comprendre en fait cette parole que Jésus dit ici comme une sorte de SOS, une sorte de au secours, j'ai besoin d'aide. Non. Ce n'est pas pour l'aider lui que Jésus demande de venir à l'aide. Mais ici, en tout cas, Jésus appelle des gens qui ont besoin d'aide à venir à lui. Tu as besoin d'aide dans ta vie? Réponse, d'après ce passage, viens à Jésus. Tu veux de l'aide? Jésus te dit, viens à moi. Oui, ici on a quelque chose d'un peu étrange. Vous voyez, en fait, on n'a jamais vu un médecin, spécialiste peut-être, oncologue, se balader dans la rue en disant, eh oh, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de consultation? Je lui paye la consultation et je m'occupe de lui. On n'a jamais vu ça. Au contraire, ce sont les malades qui vont vers les médecins, vers les spécialistes, pour prendre des rendez-vous qui durent parfois des mois, pour se faire soigner. Et ici, en fait, Jésus a tellement besoin d'aider qu'il crie presque dans la rue et dit « venez à moi si vous êtes fatigués et chargés ». Qui Jésus appelle-t-il ? Réponse : tous. Il dit : vous tous qui êtes fatigués, tous ceux qui sont fatigués, Jésus les appelle à venir à lui. Il te dit : viens à moi. L'âme est ici fatiguée et chargée. De quoi ? Dans le passage, ce n'est pas précisé. Et on peut penser qu'il s'agit de toutes sortes de maux, puisque rien n'est précisé. Il dit simplement « venez à moi ». Donc, Jésus, en fait, cherche des hommes et des femmes qui ont besoin d'aide, qui ont des problèmes dans différents aspects de leur vie, qui ont des problèmes au niveau de leur mariage, de leur famille, de relations personnelles au travail, et etc., etc. Et vous voyez, en fait, pour que quelqu'un puisse oser dire cela, il faut vraiment qu'il soit à la hauteur. Pour que quelqu'un puisse venir nous dire « venez à moi, en gros, avec toutes sortes de problèmes », il faut vraiment qu'il soit à la hauteur. Et bien entendu, ici, c'est Jésus qui parle. Jésus est celui, en fait, qui est capable de résoudre tous les problèmes de notre existence. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a tout créé. Il a créé tout ce monde, il nous a créé, et donc il est donc capable de comprendre déjà et de résoudre les différents problèmes que nous avons. Dans Matthieu 12, au verset 29, il nous est dit que Jésus est capable de lier l'homme fort, qui s'appelle Satan, qui nous tourmente, et ainsi nous donner solution à divers problèmes. Il a tout créé, il est surpuissant, il est le Seigneur des seigneurs, devant qui rien ne résiste. Et puis, il faut dire que Jésus se présente aussi en fait comme le rédempteur. C'est un mot qui vient de l'Ancien Testament, rédempteur. En langage courant, on pourrait dire en fait que ça pourrait dire. Enfin, il arrivait en fait que quelqu'un ait des problèmes dans sa vie, dans l'Ancien Testament, soit parce qu'il a tué quelqu'un ou parce qu'il est endetté au maximum. Et dans ce cas, en fait, il ne lui restait que son rédempteur pour venir le tirer, le sauver de situation. Et ici, Jésus se présente comme étant notre rédempteur qui peut nous tirer de situation. Il est ce médecin qui a la solution à nos maux. Dans Jean 10 encore, Jésus en fait se présente comme étant le bon berger en fait qui a soin de ses brebis, qui indique à ses brebis la bonne direction pour aller chercher de vers pâturage, pour aller vers une vie qui soit pleinement épanouie. Voilà quelques éléments, quelques mots simplement par rapport à l'identité de celui qui dit « venez à moi ». Et vous voyez vraiment que ce personnage qui dit « venez à moi », il a tout, tous les moyens pour te donner un avenir stable, un avenir sûr. Un avenir clair. Et il dit, venez à moi. Après avoir parlé de Jésus, regardons le second point maintenant. Comment venir à Jésus ? Comment venir à Jésus ? Qu'est-ce que ça veut dire, venir à Jésus ? Jésus est au ciel, assis à la droite de son Père. Comment donc pouvons-nous venir à lui maintenant? Évidemment, nous ne pouvons pas venir à lui, sinon qu'après la mort. Mais par contre, puisque lui veut nous aider, lui est capable de venir vers nous. Venir à lui, c'est essentiellement l'invoquer pour nous. Venir à lui pour nous consiste simplement en l'invoquer. Faire appel à lui dans chaque difficulté de la vie. C'est aussi simple que ça. Faire appel à lui. Il s'agit en fait d'avoir ce réflexe en fait d'en appeler à Jésus lorsque nous sommes en problème. En d'autres termes, Jésus nous dit en fait, quand un problème surgit dans ta vie, ne te tourne pas ailleurs pour chercher solution. Ne te tourne pas vers l'alcool ou la cigarette ou autre chose, je ne sais pas quoi. En te tournant en fait vers l'alcool et la cigarette ou autre chose en premier réflexe, ce que tu es en train de démontrer simplement en fait, c'est que ce sont ces éléments qui sont ton Dieu. Et Jésus ici nous dit, venez à moi. Ce qu'il faut dire, c'est que en appelant à Jésus, ce n'est pas seulement un acte que l'on produit au début de la vie chrétienne. Ça commence certes au début de la vie chrétienne, mais cela se poursuit tout le long de la vie chrétienne. Tout au long. Et il faut dire qu'au nom de Jésus de Nazareth, comme on l'a déjà vu en fait, les démons tremblent. Ils tremblent et ils laissent leur proie qui peut s'enfuir, qui peut être libérée. En tout cas, vraiment, ma prière est que nous puissions avoir constamment ce réflexe, cet instinct d'en appeler à Jésus. Et si j'insiste en fait parce que, voyez en fait, dans la vie des chrétiens, lorsqu'il y a un problème, la tendance, c'est d'essayer telle solution, telle autre, d'aller ici, là et encore là, d'en appeler à celui-ci et à cela, avant en fait, en fin de compte, d'en appeler au Seigneur, lorsqu'en fait, on a quasi grillé toutes nos cartes. On vient à Jésus, en quelque sorte, après avoir bien compliqué la situation. Et il faut défaire tous les nœuds avant de résoudre maintenant le problème. J'ai l'impression que les chrétiens ressemblent parfois à cette chèvre qui est attachée. Je ne sais pas si on la voit là. Ouais, vous voyez cette belle chèvre qui est attachée dans un décor africain, attachée notamment à une barre de fer ici. J'avoue que cette image me vient un peu de mon épouse. Elle aime bien parler souvent en fait d'une poule qui est attachée et en fait qui s'entremêle la corde. Et ici, en tout cas, on voit que ce mouton, en fait, s'est emmêlé tout d'abord une première patte. En fait, il aurait fallu que ce mouton reste tranquille, qu'il ait un appel au berger qui serait venu sans doute pour le retirer de là. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il va continuer à se débattre. Résultat, deux pattes entremêlées. Et il ne reste pas tranquille. Et il continue. Et finalement, les cornes sont également entremêlées. Et là, aucune autre solution que de rester tranquille, bêler et en appeler au bon berger. Et j'ai souvent l'impression, en fait, que nous, chrétiens, on réagit de la même manière. On cherche des solutions à droite, à gauche. Et on oublie de chercher la véritable solution au bon endroit. Et invoquer le Seigneur, en tout cas, devrait vraiment être ce réflexe premier. Et il s'agit en fait de prier, en quelque sorte, avant de commencer un travail délicat, avant de tout commencer d'ailleurs. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, relève-moi. Guéris-moi. Seigneur Jésus, montre-moi comment faire dans cette situation. Je ne sais pas par où commencer. Seigneur Jésus, je n'en peux plus. Viens à mon aide. Voilà ce que Jésus attend de nous quand il demande de venir à lui. Et on peut se demander, mais c'est quand même simple ce truc. Est-ce que quand on invoque ainsi le Seigneur Jésus, est-ce que cela fonctionne? Eh oui, cela fonctionne. Cela fonctionne. Parce qu'en fait, le nom de Jésus est puissant déjà. Il représente Jésus lui-même en tant que personne. Romains 10, au verset 10, nous dit quelque chose d'assez surprenant, ou dans ce sens. Qu'est-ce qu'il dit, Romains 10 ? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais bien sûr, il s'agit ici d'invoquer sérieusement le nom du Seigneur. Alors, vous connaissez peut-être cette histoire de Guslan Esther, qui va paraître juste en dessous là. Donc, c'était une jeune fille pakistanaise qui est née paralysée, depuis sa jeune enfance, paralysée. Elle perd très tôt sa mère, et donc elle est éduquée par son papa, elle a aussi deux frères. Elle a écrit notamment cet ouvrage qui est ici. Il a été réédité, on le trouve assez facilement en fait. C'est une biographie qui est assez intéressante, boostante. Donc comme j'ai dit en fait, Esther perd sa mère tôt, donc du coup elle est éduquée par son papa, assez riche, musulman, qui l'éduque en fait dans le Coran. Elle lisait, elle récitait des strophes de Coran à longueur de journée, enseignées par son père. Mais le problème, en fait, c'est qu'elle a vraiment un grave problème, puisqu'elle est paralysée. Son père a beau être riche, il va de médecin en médecin, mais il n'arrive pas à apporter cette solution dont sa fille a le plus besoin. Et finalement, on lui dit, en fait, on ne peut rien faire. Il faut vivre avec. Le papa est découragé, il se dit, mais c'est pas possible. Allah peut quand même faire quelque chose pour ma fille. Et sur ce, donc, il embarque sa fille à la Mecque pour un pèlerinage, comme cela se passe notamment pour tout bon musulman. Et donc, arrivé à la Mecque, il a beau faire toutes sortes de choses, mais en fait, sa fille revient toujours paralysée. Allah n'a rien pu faire pour changer la situation de sa fille. Et quelques temps en fait, de retour, le papa, malheureusement, va décéder. Et c'est ça qui est intéressant par la suite. En fait, cette Esther avait pour habitude donc de lire les plusieurs strophes du Coran. Elle était tombée sur un passage en fait, où il était question de Issa, le fils de Myriam, qui faisait beaucoup de miracles, qui guérissait les hommes, qui faisait pas mal de choses. À un moment donné, une nuit, elle s'arrête et dit, mais de tout son cœur, elle crie, Issa, fils de Myriam, je sais que tu guéris, je sais que tu as guéri, guéris-moi. Et sur ce, elle s'endort. Elle se réveille en pleine nuit, avec une lumière éblouissante autour d'elle. Au regard, elle se rend compte, elle sait en fait que c'est Issa, le fils de Myriam, qui est là devant lui. Et Issa lui dit, viens. Tu dis, mais comment, ben, je suis paralysée. Viens. Alors elle place un premier pas sur le côté, et un deuxième, et elle se rend compte qu'elle est en train de marcher. Alors elle fonce dans la chambre, elle commence à courir dans tous les sens, et bien sûr, ben, elle ne voit plus personne. Elle commence à danser, et ses frères dans leur chambre en fait sont tout étonnés. Enfin, ils filent, ils courent en se disant notre sœur a eu un problème, et ils la voient en train de glorifier Dieu. Elle saute dans sa chambre partout. Et aujourd'hui, en fait, cette Esther, elle est toujours vivante, elle a une cinquantaine d'années, on la voit dans la dia suivante, elle se balade dans tout le monde entier pour parler de son histoire, de sa rencontre de Jésus, au travers du Coran, et bien sûr, par la suite, elle se met à dévorer la Bible comme jamais auparavant. Alors, cet exemple biographique n'est pas normatif. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il montre en fait comment le fait d'invoquer sincèrement le nom de Jésus peut nous tirer de bien de situations. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais as-tu déjà fait appel au nom de Jésus? As-tu déjà appelé Jésus au secours? Invoque-le en tout cas, et il viendra à ton secours. Il a promis. Et puis, pourquoi venir à Jésus? Pourquoi invoquer le nom de Jésus? C'est notre troisième, dernière question. Réponse, comme on l'a déjà vu, pour qu'il nous restaure. Pour qu'il nous restaure. Et j'aimerais juste, en fait, rapidement lire quelques versets au psaume 32. C'est un psaume de David. Et il dit ceci, David, au psaume 32, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi tout fidèle te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Je donnerai du repos pour vos âmes. Je trouve intéressant d'illustrer ce que Jésus nous demande ici au travers de ce psaume 32. Parce qu'en fait, ici, on voit le roi David, en fait, qui a connu une lourde fatigue de l'âme. Eh oui, malgré en fait son apparat, malgré toute la noblesse qui est la sienne, David, ici, restait un homme, et notamment, qui a connu un lourd découragement dû à la fatigue de l'âme. Ouais, de l'extérieur, en fait, on voit souvent certains hommes, on a l'impression que ben ouais, tout va bien, ils sont costumés, mais en fait, on ne sait jamais ce qui se passe réellement au fond des cœurs. Et je me souviens en fait qu'à Oyonnax, dans une usine où je travaillais en fait pour payer mes études, j'avais connu un certain monsieur ainsi, en fait. Il était tout brillant, très aimé, mais il était rongé en fait par un problème. Et je le savais parce que c'était une connaissance et j'ai dormi quelques jours chez lui. Et David ici en tout cas, connaissait une fatigue de l'âme. Et il décrit, voyez, en fait, son état par des termes très forts, tant il souffrait. Par exemple, au verset 3, il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Sa vie était en train de fondre à l'intérieur de lui. Tout en restant vivant, en fait, il était en train de s'éteindre intérieurement. Il dit encore, je gémissais toute la journée. Ces journées étaient tourmentées, sans repos. Et au verset 4, il reconnaît en fait qu'il avait un problème avec Dieu. Ces tourments, tout cet état qui était le sien, était dû à un problème avec Dieu. Et l'une des causes en fait de grande fatigue de l'âme, c'est assez souvent un problème avec Dieu. Et David ici avait un problème avec Dieu et il dit notamment que la main de Dieu s'appesantissait contre lui. sur lui. Sa vigueur n'était que sécheresse. Et vous voyez, dans cet état, en fait, tous les moyens que l'homme peut avoir, intellectuels, financiers, tout ce que David avait, en fait, tout ce qui faisait de lui le David renommé d'un point de vue social, tout cela, en fait, était devenu un désert sec. Quel était le problème de David? Je vous invite vraiment à lire toute cette histoire qui est racontée en long et en large dans 2 Samuel 11 à 12. Et en résumé, en fait, David a profité de sa position de roi pour s'amuser avec une femme mariée qu'il a aperçue en se baladant sur son balcon royal. Et après s'être amusé, il s'est trouvé en fait que cette femme est tombée enceinte. Et pendant longtemps, en fait, David a voulu vraiment étouffer, cacher l'affaire. Ah oui, c'est toujours la première réaction en fait des hommes devant une situation, devant leur péché. C'est toujours en fait d'enjoliver, de décorer, de cacher le péché. Et vous voyez, en fait, au lieu de traiter tout de suite la chose, David a compliqué davantage l'affaire et là, il finit par assassiner Uri, qui est le mari de cette femme qui s'appelle Bathsheba, que l'on trouve donc dans 2 Samuel 11 et 12. Et pendant tout ce temps, en fait, David dit qu'il n'avait aucun repos. Le psaume 32, de même que le psaume 51, ont pour arrière-plan cet épisode de 2 Samuel 11 et 12. Donc il n'avait aucun repos, il faut dire en fait, qu'il y a eu de graves conséquences dans la vie de David. Inceste dans sa maison, désordre, coup d'état fomenté par son propre fils, et David va être conduit à fuir. Et voilà pourquoi il s'écrit « Tant que je me suis tu, mon âme, en gros, ne faisait que s'enfoncer dans un trou noir. » Et vous voyez, en fait, ce n'est que lorsque David est revenu à Dieu, dans un chemin de repentance, c'est là, en fait, que les choses ont commencé à changer. Il a invoqué le Seigneur, il a reconnu sa faute, et c'est là que sa restauration a commencé. Que faire devant la fatigue? Que faire devant l'épuisement de l'âme? Résumons simplement ce qu'on a vu ce matin. On a vu que, quelle que soit la cause de l'épuisement qui nous frappe, Jésus nous demande de venir à lui. Et venir à lui en premier instinct. Et il ne faudrait surtout pas, en tout cas, garder de distance avec lui, parce qu'en fait, il veut apporter solution à tous les maux qui pourraient nous frapper. Et bien sûr, la première solution qu'il apporte, c'est celle concernant notre péché, qui est toujours le problème majeur qui cause désagréments et qui entraîne, qui va jusqu'à la mort, hein, la mort éternelle. Et puis, on a vu que ce que Jésus nous demande, c'est de venir à lui, de nous tourner vers lui. Et dans cette proximité et intimité avec lui, en fait, il veut nous voir, non pas cacher nos fautes, mais plutôt les avouer, les reconnaître. Et troisièmement, on a vu en fait que c'est quand nous reconnaissons nos fautes devant Jésus que lui nous pardonne et que lui, en fait, commence cette restauration de l'âme, et cela notamment pour notre bien. Assurément, en tout cas, c'est ce que l'on voit, c'est ce que Jésus nous montre. Ce chemin qu'il nous indique conduit à la restauration, il conduit à la paix de l'âme et non pas à la guerre et non pas à la fatigue de l'âme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. prions.